versets 31 à 40. Et le texte de la parole de Dieu dit « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Et d'une extrémité du ciel à l'autre, il n'y a eu jamais si grand événement. Et a-t-on jamais, oui, chose semblable ? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant ? Faut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères. Et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a lui-même sorti d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre, en force, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y aura point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Il est important pour nous, frères et sœurs, de ne pas oublier que depuis que le monde existe, Dieu a tout mis en œuvre, et si on pouvait interroger l'histoire, si on pouvait interroger l'histoire, on verrait que à chaque instant, à chaque moment de l'histoire, Dieu a été présent. Combien de fois, même dans les moments les plus compliqués, les plus durs, les plus sombres de l'humanité, les hommes ont pu rencontrer Jésus. J'entendais il y a quelque temps le témoignage d'un frère qui était rentré d'un voyage où ils avaient été amenés à amener des Bibles dans un terrain où il y avait eu dernièrement des guerres. Il y avait eu des guerres incroyables et ils avaient voulu amener des Bibles. Or, dans ces pays, ce n'est pas toujours évident d'arriver avec une Bible. Et surtout, où le ramener, à qui le ramener, comment le ramener. Et ils avaient préparé ce voyage de longue date. Ils avaient acheté un camion. Ils avaient amené les Bibles en cachette. Et finalement, tout était prêt, mais ils n'avaient pas encore l'endroit où il fallait les ramener. Et donc, cette équipe de frères, ils sont partis avec leur camion au milieu des montagnes en se disant « Dieu nous conduira bien là où il faut aller ». Cependant, depuis un certain temps, Dieu se révélait au cœur d'hommes et de femmes qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Ils avaient une révélation personnelle de la personne de Jésus. Et dans ces différentes révélations, dans ces moments où Dieu a parlé au cœur, il leur disait « Bientôt viendront des hommes et vous amèneront le livre. » Ils vous amèneront le livre. Et cela a duré un certain temps, jusqu'au moment où ses frères prennent leur camion, traversent ces petits chemins de montagne, et à un moment, leur camion tombe en panne. Oui. Alors, je vous laisse imaginer, si vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas, qui ne vous aime pas, et dans lequel déjà vous êtes en difficulté parce que vous avez une panne avec votre camion, mais si en plus vous amenez des Bibles, vous avez tout pour vous. Vous avez tiré le gros lot. Et ils étaient là, ils se disaient, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi? En même temps, plusieurs personnes de ce village ont été interpellées par quelqu'un qui leur a dit, il faut que vous preniez la route pour aller à tel endroit. Il y a des hommes qui vous ont ramené le livre. Ils prennent la route, ils font le chemin. Et une fois arrivés sur place, ils retrouvent ce camion en panne avec ces trois hommes qui ne savaient pas trop ce qui allait leur arriver, puisqu'ils voient des personnes du pays. Et la peur, elle est là. Et ces hommes leur disent, est-ce que c'est vous les hommes du livre? Et les trois frères se regardent. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On ne peut pas dire non. On ne peut pas dire directement oui. On ne sait pas quelle sauce on va... Et quel livre? Et ces hommes leur expliquent ce qui s'est passé dans leur village. Et finalement, ils ont compris que celui qui avait préparé le voyage avait préparé toutes choses dans les moindres détails. Ils ont donné les Bibles. Et vous savez quoi? Le camion a repris à marcher après, étrangement. Ils ont pu rentrer chez eux. Dieu se révèle même dans des endroits où nous, on n'imaginerait pas que l'évangile soit annoncé. D'ailleurs, y avait-il un personnage dans la parole de Dieu du nom de Jean-Baptiste? Dans la parole de Dieu, il dit qu'il était la voix de celui qui criait où? Non pas dans la ville, non pas dans les villages, dans le désert. Pourquoi aller crier dans le désert? C'est pas plus simple d'évangéliser dans la ville? Mais ceux qui ont soif sont dans le désert. Et dans ce texte, il est question d'interroger. Et à quatre reprises, il y a un mot. Jamais. Jamais il y a eu un si grand événement. Jamais une chose semblable. Jamais. Je vous laisse imaginer l'Égypte avec toute sa splendeur et toute sa richesse et tous ses moyens, qui se retrouve avec un peuple qui est là pendant 400 ans pour faire les corvées les plus compliquées, celles qu'un Égyptien ne ferait pas, celles où on perd la vie. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que des esclaves. Et à un certain moment, il est question d'un homme qui est envoyé d'un dieu dont les Égyptiens ne connaissent pas. Les Égyptiens avaient beaucoup de dieux, vous savez. Pharaon déjà était par lui-même considéré un dieu. Et là, il y a un homme qui s'appelle Moïse, qui vient avec son frère Aaron et qui vient parler à Pharaon. Exode chapitre 5, verset 4, il dit « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Et ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans les déserts pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. L'Égypte était en ce moment-là en position de force. Et parfois, autant qu'enfant de Dieu, on peut se sentir un peu en position de faiblesse, n'est-ce pas? On peut se sentir entouré, voire même enfermé par quelque chose qui est plus grand que nous, trop grand pour nous. C'était le cas. Et quand on parle, nous, de Dieu, certains pourraient dire, mais qui est votre Dieu? On ne le connaît pas. Mais je vais vous dire quelque chose. En réalité, Dieu veut se faire connaître et veut se servir de chacun de nous. N'est-ce pas? Vous connaissez la suite de l'histoire. Il y aura différentes actions de la part de Dieu. Et certains des miracles que Moïse fera, les magiciens qui étaient au service de Pharaon feront de même. J'étais interpellé par ça parce que je me suis dit pourquoi Dieu aurait donné à Moïse de faire des miracles que, en effet, les magiciens pouvaient refaire. Quel est le sens, n'est-ce pas? Mais à quelque part, Dieu agit avec une pédagogie et avec une sagesse. Il les a amenés à fur et à mesure à croire qu'ils pouvaient en réalité faire autant que l'Éternel. Jusqu'à ce moment où Exode chapitre 8, versets 12 à 15, il dit, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux et dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et il fut changé en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut chargée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Alléluia. Vous savez, l'ennemi peut essayer de faire des choses pour imiter Dieu. Et nous, on pourrait se dire, « Seigneur, mais ça serait bien que ça se règle vite et bien. » Des fois, on voudrait que Dieu intervienne d'une manière nette, précise, c'est réglé et on avance. On est habitué à cette image des choses qui sont faites d'un claquement de doigts. Dieu peut tout, hein, on est d'accord. Êtes-vous d'accord que Dieu peut tout? Il peut tout faire. Il peut aussi nous faire attendre. Et il sait pourquoi. Et d'ailleurs, il laissera attendre et il donnera l'image aux Égyptiens de pouvoir imaginer juste un instant que leur Dieu était comme l'Éternel, jusqu'au moment où Dieu fait la différence. Il y a un moment où Dieu veut faire la différence dans notre vie, mais il faut accepter aussi que le doigt de Dieu touche notre vie. Il faut accepter aussi d'être non pas comme les autres. Parfois, ce n'est pas évident d'accepter de ne pas être comme les autres, n'est-ce pas? Quand on est dans le monde, on veut être comme tout le monde, comme ça on évite les différences, l'uniformité. Mais est-il possible, autant qu'enfant de Dieu, d'être comme un enfant du monde? Et acceptons-nous d'être autrement que comme le monde. Acceptons-nous de laisser Dieu toucher notre vie au point de transformer tout ce qui a transformé. Le texte continue à nous parler de cette grâce de Dieu parce que au verset 35, au verset 38, il est question d'entendre et d'être témoin, de reconnaître que l'Éternel et Dieu. Si les Égyptiens ne connaissaient pas l'Éternel, le peuple juif en avait entendu parler, mais comprenons bien, 400 ans d'esclavage, ce n'est pas deux jours. Ils avaient entendu parler des grandes choses que Dieu avait fait, mais où était Dieu en ce moment? Certes que Dieu ne peut pas marcher avec un peuple qui ne le cherche pas. Nous, on voudrait que Dieu soit avec nous malgré tout ce qu'on peut faire ou dire. Mais est-ce que Dieu peut être partout avec nous si nous, surtout, nous sommes dans un lieu où Dieu ne veut pas rentrer? Il y a un prophète qui, à un moment, parce que découragé, partira se cacher dans une caverne. Et Dieu lui dira, « Que fais-tu ici ?» Ah, mais si tu savais, je suis resté le seul. Que fais-tu ici? Parfois, on peut prendre une position spirituelle, morale, voire même physique, en disant que nous avons des raisons qui font qu'à un certain moment, Dieu doit prendre la mesure des choses. On a décidé. C'est comme ça. Et on s'enferme nous-mêmes dans quelque chose que Dieu ne veut pas pour notre vie. Et là, le texte, il leur dit, mais Dieu, il t'a fait entendre sa voix. Est-ce que Dieu fait encore entendre sa voix? Je crois que si nous examinons les choses, frères et sœurs, si nous avons dit oui à Jésus-Christ, c'est parce qu'au moment où Dieu a fait entendre sa voix dans notre cœur. On a tous fait une expérience personnelle avec Dieu. Et si ce n'était pas le cas, cherchez l'Éternel. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent vraiment, dit la parole de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Souvent, vous savez, Dieu vient nous chercher quand on est au plus bas. Parce qu'avant, on est sourd. On est tellement pris par nos musiques, la musique de la vie, la mélodie de la victoire. On a des belles musiques qui nous donne force et courage. Je vais gagner le monde entier. Vous saviez combien de projets on peut faire dans nos têtes. Je vais être riche et beau. Beau et riche. Je ne sais pas ce qui arrive. Des fois, on n'a ni l'un, ni l'autre. Des fois, on s'appuie sur nos capacités. J'ai les capacités, j'y arriverai. Et même là, paf, tout tombe à l'eau. Pourquoi ? Parce que Dieu veut en faire entendre sa voix. Seulement, nous, on se laisse prendre par la belle mélodie, excusez-moi, la belle chanson du monde. Tout le monde est riche et on ira tous au paradis. Vous la connaissez, cette chanson ? Elle est horrible. On ira tous au paradis, toi aussi. Qu'est-ce que t'en sais ? Déjà, t'es pas sûr toi-même d'y aller. Avec ce que tu dis, bon, c'est pas à moi de juger. Dieu merci et je m'en garde. N'est-ce pas ? Mais aller au paradis, il y a une porte et c'est Jésus. Et le chemin, il est bien tracé, il est bien balisé. Tu peux pas faire du n'importe quoi et rentrer au paradis, excusez-moi, comme un voleur. Si tu rentres pas par la porte, tu ne resteras pas au repas des fêtes, tu seras mis dehors, il dit la parole de Dieu, ligoté, là où la crainte habite. Le verset 37, il dit quelque chose. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Dès le commencement, la volonté de Dieu, c'est de nous aimer. Aimons-nous nous laisser aimer ? Sommes-nous capables de nous laisser aimer ? Sommes-nous capables d'aimer ? C'est pas évident d'aimer, non ? Quand tout va bien, c'est facile d'aimer. Non ? Le plus compliqué, c'est quand la personne, en réalité, elle est un peu compliquée. Heureusement, parmi nous, il n'y a pas de gens compliqués. Donc, tout le monde est facile à aimer. Et nous aussi, nous aimons avec facilité. Alors, vous savez, pour moi, l'amour, excusez-moi de le décrire comme ça, ce n'est pas une belle histoire et une musique de violon. L'amour, c'est quelque chose qui se bâtit sur le respect mutuel, qui se bâtit aussi sur le sacrifice personnel. Question d'aimer l'autre au-dessus de nous-mêmes, à l'image de Jésus-Christ. L'amour, c'est quelque chose qu'il se donne, même si on ne le reçoit pas. C'est compliqué d'aimer comme ça. Moi, je préfère quand on sent l'amour. Moi, vendredi soir, il y a un petit, pendant le temps de la prière, il est venu. Il vient me voir et me dit, je peux avoir un bisou ? Ah, Seigneur, pas un seul. Moi, je te lâche plus, mon gars. Et il dit, aide-moi. Eh oui. Ça, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes, non ? C'est quelque chose qu'on n'a pas de difficulté à aimer quand c'est comme ça. Mais est-ce que c'est ainsi que nous avons aimé le Seigneur quand il s'est approché de nous ? Moi, pas du tout. Et pourtant, le texte dit, il a aimé tes pères. Dieu ne fait pas, excusez-moi, Dieu ne fait pas tout pour nous rendre, nous aussi, témoins de sa grandeur. Est-ce que Dieu ne fait pas tout aussi en allumant un feu de l'esprit afin que, de manière à que nous puissions pas seulement être attirés au regard, mais en plus entendre la voix de Dieu ? Qu'est-ce qui s'est passé quand la voix de Dieu a retenti ? Qu'a fait-il le peuple ? Allô ? Vous êtes là ? Qu'est-ce qu'il a fait le peuple ? Pourquoi le peuple a eu peur de la voix de Dieu ? Imaginez ce matin, Dieu nous parle, mais non par un homme, mais vous entendez directement la voix de Dieu. Que se passe dans les cœurs ? Peur de mourir. Savoir si on est en règle, mais si on entend déjà la voix et qu'on n'a pas réglé les choses avant, c'est que c'est trop tard. Ou ça nous pousse à régler. Et moi, je crois que Dieu, excusez-moi, nous parle tous les jours. Parfois d'une manière, parfois d'une autre, mais il nous parle. Et la grande différence dans cette histoire, c'est que pendant que le peuple a eu peur, parce que le peuple était, oui, sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de lui. Donc il a préféré s'éloigner par peur de Dieu. On fuit Dieu, on fuit son amour quand notre cœur n'est pas en ordre. On fuit l'amour de Dieu quand notre cœur a encore un problème par rapport à ça. On n'a pas laissé l'amour de Dieu nous envahir, excusez-moi, nous faire perdre pied. Il est question pour nous, frères et sœurs, d'expérimenter cet amour de Dieu qui nous fait, entre guillemets, perdre le contrôle des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui contrôle. Dieu contrôle. Et moi, je préfère que ce soit Dieu qui contrôle. Comme ça, je suis tranquille. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, dit le chant. Hey, on ne contrôle pas une rivière. Hein. Vous savez, il y a un moment où... À l'âge de 18 ans, juste avant mes 18 ans, je n'avais pas encore mon permis de conduire. Là où mes parents habitaient, on était obligé de passer à un ravin. Et quand il pleuvait, le ravin, c'était plein d'eau. Et un soir, je rentre du travail et mon père n'avait pas pu venir me récupérer. Donc après avoir fait 2,5 km à pied, j'arrive devant le ravin. Et là, ça coulait. Ça coulait. J'ai dit maintenant, il y a juste le ravin à passer, la maison elle est là-bas, je vais passer, tant pis. Je mets les pieds dans l'eau, l'eau elle arrive jusqu'à la taille. Et à un moment, je vois des moutons passer. L'eau, il est transporté. Et plus j'avançais, et plus l'eau montait, plus la berbie faisait bé. Et là, j'ai dit, Seigneur, si toi, tu ne mets pas ta main, je risque de me laisser emporter. Mais c'est dans des situations comme ça qu'on expérimente aussi le secours de Dieu, la grâce de Dieu. Alors vous savez, le courant de la vie essaie de nous ramener tous à la même direction, à la mort. Mais la main de Jésus-Christ nous invite à marcher contre-courant. Et si notre marche elle est en Christ, notre pied est assuré d'avancer dans la bonne direction. Si notre marche est en Christ, nous sommes certains d'avancer et de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, bon, juste. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit encore, et le texte continue, en disant « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur. » Parle intellectuellement, dans ton cœur. Comment connaissons-nous Dieu? Intellectuellement? On a entendu peut-être parler de Dieu? On a peut-être suivi toutes les formations possibles et imaginables, on nous a parlé de Dieu en long, en large et en travers. Parfois, on a des personnes qui peuvent vous citer la Bible. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Satan aussi sait citer la Bible. Pour autant, il n'est pas sauvé. Il est question pour nous, frères et sœurs, de laisser Dieu toucher notre cœur. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et il n'y a point d'autre. Que veut-il dire par là? C'est que, frères et sœurs, nous avons un Dieu puissant. Et que de la même manière où il est intervenu pour libérer son peuple d'Égypte, pour le faire sortir de ce monde qui l'opprimait et qui l'avait rendu esclave, pas seulement physiquement, mais davantage spirituellement, parce que, souvenez-vous, quand le peuple est sorti, il est retombé dans ses pratiques contraire à la volonté de Dieu. L'œuvre de Satan ne se limite pas à quelque chose de physique. On pourrait penser que le péché, c'est que ce qu'on fait physiquement. Alors, je prends autorité, je ne fais plus ça. Avant, je volais. Maintenant, je ne vole plus. J'emprunte. Ah ben, j'emprunte. Après, des fois, j'oublie de rendre. Mais ça, c'est mon problème Alzheimer. Et on essaye de bricoler, excusez-moi, un évangile qui nous convient pour nous assurer de quelque chose. Mais la parole de Dieu voudrait qu'on retienne dans notre cœur, je dirais, la manière d'être heureux. Et être heureux, ce n'est pas sur la base de ce que nous possédons. Parce que parfois, on pense posséder les choses, alors qu'en effet, c'est les choses qui nous possèdent. On pense posséder la richesse, alors que c'est la richesse qui nous possède. Il est question pour nous de nous laisser travailler dans notre connaissance du cœur. Alors, comment connaître Dieu ? On va y aller rapidement. Première chose, par ses ouvrages. Romains chapitre 1, verset 20, il nous dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, ceux qui ne reconnaissent pas Dieu. Amen. Est-ce que la nature vous parle de Dieu ? Amen. Est-ce que le ciel nous parle de Dieu ? Est-ce que la terre nous parle de Dieu ? Est-ce qu'un papillon vous parle de Dieu ? Amen. Tout nous parle de Dieu. Deuxième chose, par sa providence, Actes chapitre 14, versets 16 et 17. C'est Dieu dont les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, et vous dispersant du ciel la pluie et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Dieu a tout essayé, toujours. Et il fait encore aujourd'hui une œuvre de grâce. Connaître Dieu, véritablement connaître par sa parole. Ésaïe 45, verset 21, dira « N'est-ce pas moi l'Éternel ? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. » Il y a deux possibilités, deux options. Condamner ou justifier. Mais vous savez, ce n'est pas Dieu qui nous condamne. C'est notre choix qui nous condamne. C'est notre décision qui nous condamne. Ou notre manque de décision. Parfois, on peut rester bloqué dans une position en croyant que Dieu va changer les règles pour nous. Mais je voudrais vous dire, Dieu ne change pas d'un iota. Et le iota, c'est une des plus petites lettres utilisées par les Juifs. Même pas une virgule. Un point, deux points, trois points. Connaître Dieu, sa puissance par Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous et en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Est-ce que nous répandons un parfum de Christ ? Oui ? Autour, là où Dieu nous a installés, vous savez, là où vous habitez, ce n'est pas vous qui avez choisi. Hein. Même pas vous, mesdames. Désolé. C'est Dieu qui vous a conduit. Et vous a conduit pour être un parfum de Christ. Autour de vous, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de sentir le parfum de Christ et se dire, mais il sent bon et moi, je sens mauvais. C'est horrible quand on rencontre quelqu'un qui sent mauvais, non ? Je ne sais pas si vous appréciez ça, vous. Moi, j'ai plutôt du mal. J'ai l'estomac qui part en vrille. Par contre, quand quelqu'un sent bon, ah, attends, bouge pas, viens ici. Ah, fais-moi humer encore une fois. Ah, non ? Mais quand ça ne sent pas bon, prenez un bébé. Quand ils sont bons, vous êtes là, viens dans mes bras. Quand ils ne sont pas bons, tiens chérie. Il y a un problème à régler. Est-ce que notre vie sont bons ou est-ce que notre vie sont mauvais? Vous savez, par nous-mêmes, parfois l'odeur, on ne le sent plus. C'est les autres qui peuvent nous dire si on sent bon ou pas. Alors si à un moment dans votre vie, vous voyez tout le monde vous écarter, s'éloigner, peut-être qu'il y a un problème. Mais si vous vous approchez de Christ, le problème sera réglé. Et tout à nouveau, vous verrez les choses changer pour vous, pour les autres. J'aimerais terminer par cette pensée. Si nous voulons bénéficier de la promesse, aimons et apprenons à connaître de plus en plus celui qui a fait la promesse et qui l'accomplit. Le texte dirait « Observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Je voulais juste terminer, si vous me donnez une minute. Une des responsabilités des parents est celle de transmettre à leurs enfants. De transmettre, et c'était la règle, d'ailleurs, si vous regardez bien dans la parole de Dieu, il est écrit quand ils sont en voyage de raconter à leurs enfants les hauts faits de l'Éternel. Ce que vous transmettez à vos enfants, c'est le véritable héritage. C'est l'héritage que personne ne pourra leur voler. Si nous vivons, frères et sœurs, dans cet attachement à sa parole, à son amour, à sa bonté, à sa grâce, nous transmettons aussi à nos enfants cet héritage qui sera pour eux la plus grande richesse. Vous pouvez prendre un enfant, vous pouvez lui donner des millions d'euros, mais si vous ne lui avez pas appris à comment les gérer, tout va partir très vite, très vite. Vous pouvez lui donner une belle éducation, mais si vous ne lui avez pas appris à la vivre véritablement, elle partira aussi très vite. Les mauvaises compagnies. Par contre, vous savez, il y a un dicton parmi les Juifs qui dit « Donnez-nous vos enfants pendant 3 ans, après faites-en ce que vous voulez. » Parce qu'en réalité, à ce moment-là, les enfants sont comme une éponge. Mais on ne peut pas donner à nos enfants ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Quel héritage voulons-nous pour les générations qui suivent derrière nous? Et sans aller plus loin que ça, qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes? Ce matin, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu veux pour toi? Tu veux connaître le Dieu de l'histoire? Ou tu veux vivre avec Dieu la plus belle histoire? On va fermer nos yeux. Et encore ce matin, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de dire au Seigneur, « Seigneur, jusque-là je t'ai connu de manière intellectuelle, mais je veux te connaître avec mon cœur. Seigneur, écris dans mon cœur ta parole. Écris dans mon cœur, Seigneur, et Seigneur, inscris, Seigneur, ta parole par ton amour, par Jésus-Christ, pour que ma vie soit transformée, pour que ma vie soit changée. Seigneur, encore ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu es un grand Dieu. Tu es le seul et vrai Dieu. Personne est comme toi, Seigneur. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, nous sommes au bénéfice de ce Dieu glorieux, merveilleux, incroyable, puissant. Seigneur, quel qu'il soit le combat que nous pouvons mener, du moment que tu es avec nous, Seigneur, la victoire est déjà remportée. Et ô Éternel, parfois les combats sont nécessaires pour que le monde voie qui tu es. Et pour que le monde reconnaisse que nous sommes à toi. Seigneur, si les Égyptiens n'avaient jamais entendu parler de toi, c'est parce que le peuple n'avait pas parlé de toi. Mais quand ils ont vu la manière où toi, tu les as fait sortir d'Égypte, la main levée en signe de victoire, Seigneur, le monde a reconnu qu'il y a un Dieu qui est plus puissant que tout ce qui peut exister dans le ciel et sur la terre. Seigneur, nous-mêmes, nous voulons être témoins, Seigneur, non pas seulement parce que nous avons entendu ta voix, Seigneur, parler à nos cœurs, mais témoins, Seigneur, et aussi instruments entre tes mains pour que le monde te connaisse, pour que le monde connaisse et découvre le Dieu Tout-Puissant. Alors, Seigneur, aide-nous à répandre ce parfum qui est quelque chose qui prend, Seigneur, Seigneur, nature au plus profond de nous-mêmes, dans notre cœur. C'est le parfum de Christ. Seigneur, si Christ n'est pas en nous, son parfum, il n'y sera pas non plus. Seigneur, encore ce matin, nous te disons, sois notre Seigneur, sois notre Sauveur, sois celui qui, Seigneur, se sert de chacun d'entre nous. Seigneur, comme un instrument de bénédiction. Seigneur, comme un instrument de délivrance pour son voisin, pour sa famille, pour le couple, pour les enfants, Seigneur. Nous proclamons ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être heureux. Et être heureux, c'est être heureux avec toi. Ce n'est pas le monde qui nous donnera le moyen d'être heureux. Seigneur, notre joie, elle est en l'Éternel. À toi, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.